Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une petite question, Bruno. T'as encore oublié de me monter mon son. Si.
Non. C'est parce que le son de la musique est plus fort que le son du casque.
Ah, c'est bon. Merci, Bruno. Bah, je te présente, tiens. Bruno, le technicien de ce soir. Tu vas bien?
Bonjour à tous.
Ça va? Super. Bon. Alors, bah, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On est en direct, bien sûr, sur le 102.2. Et je suis avec mes deux colistiers. Salut, Valérie.
Bonsoir, Lionel. Bonsoir à tout le monde.
Et Alexandre.
Salut, bonsoir, Lionel. Bonsoir à tous.
Bon, vous allez bien tous les deux?
Très
oui,
bien.
Nickel.
Nickel.
Oui. Malgré le froid, on est là.
Oh, ça va, c'est meilleur que la semaine dernière.
Ce week-end, nous, dimanche, on a eu très froid avec Alexandre.
Froid, on a eu très froid.
Surtout aux pieds.
Ouais. Bon, on en reparlera.
Oui.
Hein, il y a plein de choses à dire.
Oui, bon. Beaucoup de choses à dire.
Donc aujourd'hui, on va parler de vélo. Vous savez faire du vélo?
Oui, bah, oui. Comme la plupart des gens.
On a deux spécialistes, deux invités. Alors le premier, président du comité départemental de cyclisme et également président de BMX Organisation. Georges Garcia, bonsoir Georges. Il a allumé le micro?
Oui.
Bah, c'est bon.
Il est bien allumé, oui.
Non.
Ah non?
Non, si, c'est
ça
bon.
Y est, c'est,
non,
c'est
bon.
Ouvert.
Donc bonsoir Georges.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Très bien, très
bon,
bien.
Bon, écoute, on est ravis que tu aies accepté notre invitation et on va pouvoir parler du comité départemental et également donc, du grand événement qui aura lieu en janvier prochain.
Oui, oui, tout à fait, un grand événement qui commence un peu à nous stresser, on commence à avoir une boule au ventre, mais bon...
Bah ça se voit pas.
Non, pas du tout. Non, c'est le soir surtout. C'est la nuit.
Si, quand même, il a les yeux cernés. Donc, mon avis, il doit mal dormir.
Ah. Oui.
Bah, on aura l'occasion justement de développer. Et tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec Lionel Beccari, donc spécialiste vélo. Oui. Tu es également correspondant vélo au Journal de la Provence.
Et oui.
Et également speaker de grandes compétitions internationales.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Bonjour, écoutez, à tous.
Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Hein, donc on aura l'occasion de parler de tout ça, mais avant cela, Valérie,
y a-t-il... quelques résultats sportifs.
Il y en a eu beaucoup?
Non, il n'y en a pas eu trop, pas d'autres. Non.
Ouais, bon, vas-y,
non,
alors,
pas beaucoup. Je commence avec le basket avec l'ABC de Carpentras. Donc en U11 filles, Carpentras recevait Bolène et s'est incliné 6 à 10. En U13 filles, Carpentras recevait Cavaillon et la Cavaillon a mis une raclée, excusez-moi le terme, donc à Carpentras 52 à 14. En U18 garçons, les Carpentrassiens recevaient Orange et là aussi Carpentras s'est incliné sur le score de 63 à 80. En U15 garçons, Carpentras recevait Pernes 74 à 52. En U13 garçons, Entraigues recevait Carpentras cette fois-ci et Carpentras là aussi s'est incliné sur le score de 29 à 52. En U18 filles, Carpentras se déplaçait à Orange, là Carpentras a gagné 77 à 45. En senior garçons, Carpentras s'est déplacé à Montfavet. Carpentras 51, Montfavet 83. Et en U15 filles, Carpentras la recevait Château-Renard. Là, une petite, malheureusement, bah, une défaite, 55-58. Et enfin, en senior filles, Carpentras recevait Rognonias. Et Carpentras, donc, s'est imposé 53 à 42. Il y avait aussi du handball avec donc Mazan. Hein. En National 2, bah, Mazan se déplaçait à Montpellier. Et là aussi, Mazan donc, s'est incliné sur le score de 25 à 32. En pré-national, Mazan donc là se déplaçait à l'ASPTT Marseille et là aussi Mazan s'est incliné 20 à 31. En excellence territoire, Mazan donc se rendait sur Sorgue et là s'est imposé 37 à 27. En moins de 18 national, Mazan s'est incliné 31 à 36 face à Puy-Chéric. En moins de 17 ans, Élite PACA, Mazan qui recevait Cannes s'est incliné 25 à 29. En moins de 17 ans, Excellence Région, Mazan se déplaçait chez nos voisins, les Montiliens, et s'est incliné 23 à 29. En moins de 15 ans, équipe 2, Mazan donc, s'est imposé face à Sorgue sur le score de 32 à 20 et en moins de 13 ans, Sorgue donc recevait Mazan 1 donc, et Mazan s'est incliné 1 à 18 et Bolène là par contre recevait Mazan et là c'est Mazan qui s'est imposé 49 à 8. Donc j'explique hein, au niveau des scores très importants en hand, c'est tout simplement il y a une disparité entre les deux équipes tout simplement et dans un sens et dans l'autre. Hein.
Donc, on l'avait remarqué.
Bah oui, c'est des jeunes qui commencent à apprendre le hand, bah, il faut bien... Hein. C'est des écoles, il ne faut pas oublier. En tennis de table, donc, je vais donner quelques résultats. La régional gagne de Carpentras, ben évidemment Carpentras la SPTT, j'ai oublié de le signaler, gagne 12-2 contre Courthézon et l'équipe infinie troisième de sa poule et se maintient en PR. La D1, donc équipe 2, perd 6-8 pardon, contre Sorgue, elle finit huitième de sa phase et se maintient en D1. La D3 donc, de la SPTT Carpentras, et, équipe 4, gagne 11-3 contre Avignon et finit cinquième de sa poule. La D3, donc équipe 5, gagne par forfait contre Peugeot et finit deuxième de sa poule, pas très loin de la montée malheureusement. Donc le club aura donc deux équipes en pré-régionale l'année prochaine, une équipe en D1 et deux équipes en D3 en phase 2. Donc juste un petit bravo aux pongistes de l'SPTT de Carpentras. En football, DH féminine Monteux, Barbantane Monteux 1-3. Au classement général, Monteux est toujours première avec 33 points. Chez les garçons, district 1, Carpentras recevait l'île sur la Sorgue 4-1. Avignon, donc Perne 0-2. Au classement général, Carpentras est premier avec 28 points et Perne 7e avec 22 points. En district 3, poule A, Saint-Didier Orange 0-3. Monteux Loriol 4-1. Au classement général, Monteux et je ne sais pas combien, avec 25 points. Loriol 13e avec 14e point et Saint-Didier 14e avec 11 points. Donc je regarderai, je crois qu'il est 5e. Donc en poule B, Carpentras recevait Villeneuve 4-1. Malocène Caron 1 partout. Classement général, Caron est toujours 4e avec 25 points, avec un match de retard. Sarian 7e avec 22 points et Carpentras 8e avec 21 points et toujours un match de retard. En district 4, poule A, Caderousse Serre 2-1. Au classement général, l'équipe de Serre est 7e avec 22 points. Et là, je laisse la parole, parce que j'allais donner le résultat du rugby à 13, mais bon, je préfère te le laisser.
On a 3 du RCC. Moi, j'en ai 3 du RCC. Oui. Donc, en rugby à 13, on Carpentras recevait Entraigues pour les U14. Carpentras s'est largement imposé 50-6. Les U16 recevaient également Entraigues. Ils se sont imposés 58-10. Donc, deux matchs plutôt faciles, hein. Et en Elite 2, donc Carpentras, donc l'équipe 1 de Carpentras, jouait contre Lescure. Match qui s'annonçait difficile de base et qui l'a été. Carpentras s'impose juste 22-20. Mais enchaîne une bonne série. Là, ça y est, ça fait deux victoires. Ça fait du bien.
Voilà. Et au classement général, ils sont 5e avec 14 points.
Ah, c'est mieux.
Oui, à 4 points du 4e, Entraigues.
Lorsqu'on en a parlé la semaine dernière, c'est vrai qu'ils sont repartis sur une phase montante, heureusement, parce que c'était...
Ouais, ouais. Mais là, il y avait des absents aussi, en plus, hier. Donc,
oui,
c'est vrai.
Il y a eu de très bonnes performances.
Oui, il y a eu de... Ah oh, oui.
Le Thibaut Santouy, là. Ouais. Le jeune,
vous avez été tous les deux.
Ah ben oui. Mais on ne s'est même pas vu.
Non, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Ouais, on était tous les deux au stade.
Vous êtes évité, c'est ça?
Non, pas du tout. Moi, j'étais en train de...
Il devait être tout en haut et moi, j'étais tout en bas.
C'est ça.
Voilà. Et moi, j'étais tout en bas.
J'étais tout en haut.
D'accord. Donc, comme au match.
Oui, mais un match en plus sous une pluie froide, hein, une pluie fine,
oui,
froide.
Oui, il faisait froid, les conditions n'étaient pas faciles.
Très froid. Hein.
Mais ils ont fait un gros match. C'était un match très tendu. C'est parti en bagarre à la fin. Mais sinon, c'était un beau match.
Mais ils l'ont dominé du début jusqu'à la fin?
Non, c'était dur. En fait, Carpentras, ils ont mis 20 minutes à se réveiller. On a pris un essai direct. Après, bon, il y a eu une inspiration de Thibaut Santouy qui permet d'égaliser. Derrière, c'est un peu compliqué. En fait, à chaque fois qu'on marquait, il y avait un relâchement. Et à la mi-temps, on perdait. On perdait 2 points. Et après, en deuxième mi-temps, on a réussi à se remettre. On a marqué deux essais coup sur coup, je crois. Et derrière, ils n'ont pas réussi à suivre.
Et en plus, ils ont marqué en fin de match, mais il a pris une pénalité aussi.
On avait pris un carton jaune à la dernière action.
Ouais. Et ils ont marqué une pénalité, ce qui a permis les 2 points d'écart. Hein.
C'est ça.
Puisqu'on a un petit peu le rugby, messieurs.
Un petit peu, mais on n'a pas trop le temps. C'est vrai que les week-ends, c'est assez chargé. Ouais. Mais oui, en tant que passionné de sport, on suit l'ensemble des sports. Je pense que c'est pareil pour Georges.
Juste un truc, je suis carpentracien, donc le 13, je le connaissais. Ce jeune homme n'était pas gorné. Et je venais tout à l'heure, à l'instant, de lui expliquer la différence entre le 13 et le 15. C'est une chose
à comment c'est né,
à s'intéresser. D'ailleurs, j'invite les gens à lire un jour sur Internet l'historique du 13. C'est très très intéressant et on apprend beaucoup de choses qui sont parfois pas très jolies. Parce que le rugby, dans l'histoire, il y a eu des conflits politiques, hein, je veux dire, où la politique s'est mêlée. Et c'est très intéressant, donc j'invite un jour à le voir. Mais le 13, je le connais depuis l'époque des Chiquitanos.
Et tu préfères le 13 ou le 15, toi?
Moi, j'aime tous les sports. Ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je vais peut-être pas me faire des amis auprès des quinzistes, mais... Le 13, quelque part, c'est le rugby, comme on l'entend, le rugby de progression. Si vous voulez, au 13, on ne joue pas au football. Hein. Au 13, on avance, on progresse. Il n'y a pas de percussion.
C'est un sport d'évitement.
Voilà. Et puis surtout, ça, je vous dis, j'adore le rugby à 15, j'ai aucun souci. Mais le 13 est un sport qui est encore démocratique du point de vue physique. Voilà. On n'est pas à la fois au bestiaux comme au 15, où justement, au 15, maintenant, il y a des gabarits types pour certains postes.
Ah oui, totalement. Alors,
j'ai un ami qui a joué en équipe de France, qui joue d'ailleurs aujourd'hui à Massy, qui est professionnel à Massy. Donc, j'adore le 15, mais voilà. Le 13, pour moi, c'est vraiment les valeurs de progression du rugby. Voilà. Après, ça...
Ouais, je ne veux pas laisser le débat, mais il y a une grosse différence entre le 13 et le 15.
Le 13 est plus dynamique. C'est pas parce que j'en fais, hein, c'est pas parce que,
peu,
du moins.
Un petit peu.
Bah non, pour te dire, il y a un ami à moi.
Tu
qui...
peux pas nous la faire, quand même.
Non, il y a un ami à moi qui n'avait jamais vu de rugby à 13 jusqu'à ce qu'il vienne me voir jouer l'année dernière. Et c'était à la rentrée, là, il y avait la Coupe du Monde de rugby à 13. Et il l'a regardé et il m'a dit que c'était 10 fois mieux que le rugby à 15, qu'il avait grave adoré et qu'il va encore regarder.
Alors. Par contre, juste un petit truc, c'est que le rugby à 15, le rugby à 13 a aussi très haut progressé comme le rugby à 15. Et par contre, avant, je peux t'assurer que le 13 était très haché, trop haché d'ailleurs.
Oui,
aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide, fluide. Beaucoup plus speed et beaucoup plus fluide.
Voilà. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on aura appris sur le 13
ouais.
Bon, allez, on va se faire une petite pause, hein, on va se remettre de nos émotions et puis après, on va parler du Ballon d'Or.
On va d'abord
et des résultats nationaux.
Quand même, parce qu'il y en a eu, il y en a eu.
Il y en a eu ?
Oui, allez. Beaucoup. That we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about you. Figure it out without you. And I'm not sitting on without you. Fuck, I'm going up without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going body in the cloud without you.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Bon, Voilà, donc après cette petite pause musicale, nous revoilà dans les studios. Et Alexandre, tu vas pouvoir nous dire, t'en as, qu'on peut nous réécouter.
Alors, on peut nous réécouter donc, dans deux jours sur le de 5h30 à 7h, c'est ça?
Oui.
5h30 à 7h, donc sur le 102.2.
La révision, il va falloir la faire toutes les semaines.
Et il y a le podcast qui sort demain ou après-demain.
Après-demain,
c'est ça. Donc là, le jour où il y a la rediff, sur le site www.rtvfm.net et sur la page Facebook de la radio RTVFM.
T'as ramé, hein?
Un peu, ouais.
Non, s'il ne sort pas mercredi, le podcast, il sortira jeudi.
D'accord.
Voilà. Bah, ça, parce que c'est moi qui le mets, en
ça,
fait.
Ça dépend de toi, après.
Bah oui, c'est ça. C'est en fonction, parce que je suis overbooké.
Oui.
Voilà. Bon, passons sur nos états d'âme. Les résultats nationaux. On va commencer par... Oui. Bah, on était sur du rugby.
On va rester sur du rugby.
Ouais, hein, clairement ouais. À gagner, je crois.
Alors, je vais te dire ça, parce qu'il y a eu du... En fait, il y a eu... Eh non, il y a eu Saracens-Clermont.
Ça a été reporté ce soir. C'est ce soir à 18h.
C'est ce soir.
C'est ce soir à 18h et quelques, non ?
Alors, je vous le dis de suite, c'est les Saracens qui gagnent.
Bah non.
Et ils sont double champions d'Europe en titre.
Mais ouais, mais ils ont la pression.
Oui.
Niveau non, je suis clairement, ils vont, clairement, en fait.
Clairement, ils vont pas exister ce soir.
Non, mais il y a de la neige sur le terrain. Et puis, Clermont, donc, a l'habitude de glisser. Donc, de bien jouer sur la neige.
Ah bah oui. Non, ils vont perdre. Ils vont perdre.
Mmh. Enfin, on en reparle lundi prochain.
Je sais pas si ce sera serré ou large, mais les Saracens, ils sont trop forts. Donc,
Bon, arrête des désagréables.
Mais non, mais c'est vrai. Ensuite, La Rochelle, ils ont joué contre les London Wasps et ils se sont imposés avec le bonus offensif 49 à 29. Donc, ils sont à 15 points dans leur groupe. C'est la première fois qu'un nouveau club qui vient d'arriver, qui dispute sa première saison européenne, a autant de points en phase de poule. Donc, ça prouve bien que cette année, ils sont vraiment très, très chauds. Le Castres recevait le Racing pour la Coupe d'Europe aussi. Et Castres s'est imposé 16 à 13. Donc, Castres est deuxième dans son groupe et le Racing est troisième. Le Racing est très mal embarqué dans cette coupe et je crois même pas s'ils peuvent se qualifier, je suis pas sûr. Et enfin, ensuite, il y a eu Toulon contre Baf qui a vraiment galéré, mais qui s'est imposé 24 à 20. Ils ont fait un match complètement nul.
Tu l'as vu le match ?
Ouais, nul. Ah. Nul. Ils ont été mauvais. Ils ont juste eu un peu de cœur à la fin. Ils sont mis à l'œuvre un peu à la fin. Ils ont marqué en coup de chance. Et voilà.
Ouais, mais la charge fait partie du jeu.
Mais ouais, mais c'est dommage de voir Toulon à un si bas niveau.
Ah bah, c'est vrai que cette année, ils sont pas terribles. Hein.
Je m'attendais, ça fait 2 ans, là, ils sont mauvais.
Bon. Ouais, parce qu'au classement général, ils sont combien ? J'étais quand même.
Au classement général, au top 14, ils sont 4e ou 5e, je crois.
Mais même ils sont pas plus bas ?
Mais pour Toulon, c'est rien.
Je croyais qu'ils étaient au moins 6e.
Même pour Toulon, ils doivent être premiers. Ouais. Quand tu as une équipe composée de champions du monde, tu te dois d'être premier. C'est comme si Paris serait 5e au classement de Ligue 1. Quoi. Ce serait une honte. Là, c'est un bon moment.
Ouais, ils peuvent l'être. Hein.
Je trouve ça un peu moyen, moi. Pour une équipe, en plus, 3 fois championne d'Europe.
Non, excusez-moi, c'est que il a parlé de Paris, mais je pense que la honte va arriver au mois de février là.
On va en parler après. on va bien taper dessus aussi. Ensuite, il y a Montpellier qui se déplaçait à Glasgow, qui sont imposés 29 à 22. Donc Montpellier essaye de se rattraper et est troisième à un point derrière le deuxième, donc de son groupe, donc pour essayer de se rattraper, essayer de se qualifier. Ce serait bien. Il y a plein de clubs français.
Ce sont les deux premiers qui se qualifient ?
Ouais, c'était les deux premiers. Je crois que c'est les meilleurs deuxièmes.
Ah, en plus ?
Ouais, c'est un système compliqué, la Coupe d'Europe de rugby. C'est un peu compliqué. Alors, juste avant de passer à la Ligue 1, je vais juste donner une petite information parce qu'il y a eu du hand féminin ce week-end.
Ah oui, la Coupe
du Monde. On en a parlé la semaine dernière.
Le 8e de finale de Coupe du Monde et la France s'est imposée 29 à 26 contre la Hongrie. Donc, direction les quarts. Je sais pas qui elles affrontent en quart. Je sais pas si Valérie, tu sais.
Je l'ai vu marquer tout à l'heure, mais alors honnêtement.
Tu veux que je regarde ?
Non, oui, si tu peux.
Parce que, j'ai pas vu, il me semble pas. Non.
Je vais regarder, on le dira tout à l'heure.
Maître Capello va regarder.
Essaye de voir, voilà, Maître Capello va regarder, exactement.
Voilà.
On va passer du coup à la Ligue 1, parce qu'il y a eu de sacrés matchs ce week-end, il faut dire. À noter Strasbourg, pour moi le premier match à noter, c'est Strasbourg qui est allé à Bordeaux, qui a gagné 3-0. À Strasbourg, c'est l'équipe, personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent ça. Ils sont allés gagner 3-0 après avoir gagné Paris la semaine dernière. Paris, d'ailleurs, s'est imposé contre Lille 3 buts à 1. Monaco a failli passer à la trappe à domicile contre 3. Ils perdaient 2-0 jusqu'à la 60e.
Oh, c'était chaud.
Et ils ont réussi à renverser le match, à gagner 3-2.
Ah bon ?
Ouais, donc ça a été un succès très, très remarqué ce week-end.
Parce que 3, ils sont pas dans les premiers. Hein.
Ouais, ils sont mauvais, 3.
Bah oui.
3, ils sont 17e. Hein.
Parce qu'ils sont pas dans les 3 premiers, en tout cas.
Ah non, et Monaco, quand même, Monaco, quoi. Ensuite, Montpellier fait 1-1 contre Angers. Dijon perd 4-0 contre Guingamp. Je crois que c'est l'un des plus gros scores ce week-end. Amiens a failli gagner contre Lyon. Il gagnait jusqu'à la 80e. Et dans les 10 dernières minutes, Lyon a marqué 2 buts. Et il s'impose 2-1. Donc Amiens, ça va pas trop. Nantes recevait Nice. Nice s'est imposé 2-1. Alors qu'il perdait 1-0. Ça aussi, ça a été un match plutôt surprenant. Et Marseille, voilà, a fait le match parfait hier soir en s'imposant 3-0.
Le match parfait. Parce qu'il gagne. Bah, il gagne,
je suis désolé. On gagne 3-0.
Pour
une
fois.
On a enfin un attaquant qui marque. Non, alors 14 matchs sans défaite en Ligue 1.
Oui, cette année. Mais bon, pour une année.
14 matchs sans défaite depuis en ce moment. On est sur une grosse série.
Ouais, c'est une série.
On est sur une grosse série. Mais non.
C'est tout ce qui montre des
signes. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un attaquant qui marque pour une fois. On a eu un attaquant qui marque. On avait Valère Germain qui n'avait pas marqué un seul but depuis le début de la Ligue 1, qui a marqué un doublé hier. Donc,
Le fils de.
Alors là, son prénom, le prénom de son père.
Bruno.
Bruno, ouais.
Mais celui-là, je crois moi qu'il a marqué les esprits.
Oui,
à Marseille.
Oui, c'est un grand joueur de Marseille, oui. C'est pour ça que Germain, d'ailleurs, était à Marseille cet été. Oui.
Il est juste champion d'Europe. Hein, juste...
Ouais.
Le papa. Ouais. Hein.
Oui, je sais.
Bon.
Je crois.
Quel cours, hein, t'as vu un peu ça? Bon, en plus, après.
Après, bah, est-ce que tu veux qu'on parle du tirage au sort?
Non, peut-être le classement déjà.
C'est vrai, j'ai oublié de dire le classement, c'est pas faux. Alors au classement, donc Paris est premier, bon ça c'est sûr, jusqu'à la 38e journée. Hein, on va pas...
Ils ont combien d'avance par rapport au deuxième?
Ils ont 9 points d'avance, mais dans tous les cas, personne ne les rattrapera, donc ça sert à rien de...
Je te coupe là, pour le handball féminin, donc le quart de finale opposera la France au Monténégro. Là, ça va être difficile là. Hein.
Ah bon?
Ah bon?
Bah quand même, ce sont des équipes Monténégro assez hard.
Rugueuse.
Ouais, ah ouais, voilà, rugueuse.
Il faut savoir que le handball, ses origines, c'est les pays de l'Est.
Hein. Oui.
C'est, voilà. La spécialité du handball, c'est les pays de l'Est.
Et oui.
T'as vu un peu ça? On n'a que des cultivés en sport ici. Hein.
Et non, mais il a raison, mais c'est vrai.
On a Daniel Constantini qui est mercredi à Apt, qui fait une conférence.
Ah.
Un grand monsieur.
Ouais. Et oui.
Très grand monsieur.
Un grand entraîneur.
Ensuite, donc, deuxième.
Donc, deuxième, Lyon. 3e Monaco et 4e Marseille dans le bas de tableau. 18e Lille, 19e Angers, 20e Metz.
Ouais. Tu vois, il n'est pas dans les 3 premiers à Marseille, hein, le 4e.
Ah non, Marseille, attention, Marseille est 4e. 4e à égalité avec le 2e et le 3e.
Ça fait rien, il est 4e.
Ouais,
mais
non, mais c'est la différence de but.
Ouais, il est 4e.
C'est rien, on s'en fout. C'est qu'un détail.
Mais quand on aime bien t'embêter.
Non, mais qu'est-ce qu'il est chauvin?
Ouais, c'est pour mais ça qu'on
l'a fait. Non, il est réaliste. Remarque, là,
mais je suis réaliste.
Non, mais attends,
pas du tout.
Mais défends-toi,
ils sont deuxièmes. Pour l'instant, ils sont deuxièmes. On va savoir, ça va être ce week-end, quand va y avoir le Lyon-Marseille, là, qu'on va savoir si on sera deuxième ou pas.
Bon, je dirais qu'un mot. Allez, PSG. Allez.
Bon, on va en parler,
bon, au revoir, messieurs. Je m'en vais. Cette émission était très agréable jusqu'à maintenant. Au revoir.
Fais attention à ce que tu dis.
Reste avec nous, Georges.
Fais attention,
oh là là, tour
donc,
de table.
Oui, tu voulais dire. Parce
oui,
que...
parce que oui, parce que tu parlais de Paris, tu parlais de PSG, oui. Mais le PSG, ils sont mal embarqués. Hein. Il y a eu le tirage de sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et ils tombent contre le Real Madrid.
Ouais, mais attends, t'as vu, ils ont des joueurs de marque maintenant.
Ils ont Neymar et Mbappé, d'accord. Mais...
Ah bah voilà, ça fait tout.
Ouais, mais le Real Madrid, c'est si t'as pas, ils ont, c'est la seule équipe. Enfin, si le Real, c'est pas normal.
Non, parce que pour information, c'est vrai que les auditeurs ne nous voient pas. C'est vrai que Georges, il est en train de nous montrer des photos avec des femmes toutes nues. Donc c'est vrai que automatiquement, Alexandre,
pas du
il
a tout, été perturbé.
Des photos du stade Santiago Bernabéu, ouais. Le stade du Real Madrid.
Et une belle photo. Ouais.
Bah, il était là-bas avant-hier. Donc c'est pour ça qu'il nous montre ça.
C'est pour ça. Oui, donc tu disais.
Oui, donc du coup, ils vont jouer contre le Real. Ils vont se faire désosser, je pense. Enfin. Après, moi, je suis pas pour le Real et je suis pas pour le Paris, donc je peux pas. J'ai pas vraiment
pour le
favori.
Meilleur, quoi. Tu es pour le meilleur.
Mais tant qu'on voit un beau match, tant qu'on voit deux beaux matchs de foot, après ouais. Le reste.
Oui, Georges.
Non, moi, je suis pour le Real et pas du tout pour l'autre équipe.
Non, mais attends, c'est les origines. C'est les origines de Georges.
On sera d'accord en France,
que,
mais en Espagne, on ne sera pas
parce
du tout.
Que moi, en Espagne, pour moi, c'est le Barça. Voilà.
Parce que pour moi,
c'est Messi. Donc,
le club le plus titré au monde, c'est le Real Madrid.
Oui, le Barça,
et qui continue. Hein. D'ailleurs,
le Barça, c'est meilleur.
Georges, c'est tes origines qui parlent.
Oui, tout à fait. Mais je te signale que le champion d'Europe en titre, c'est le Real de Madrid.
Oui, c'est le Real, mais vu le début de saison qu'ils font.
Mais c'est pas grave, ça.
En vrai, si on prend le on
va vous laisser.
Si on prend le match de façon, enfin, si on prend la rencontre de façon réaliste, au final, j'espère bien que Paris va perdre parce que c'est mon côté marseillais qui ressort. Oui. Je veux pas que Paris gagne. Je veux pas que Paris gagne le Real parce que s'il gagne le Real, le titre ils l'ont. Mais
j'ai pas d'accord avec toi.
Mais le Real, après le Real, ils sont battables. C'est ça le problème, c'est que vu le début de saison pourri qu'ils font, entre un Ronaldo qui a un ballon d'or qu'il ne mérite pas du tout d'ailleurs. Ça,
mais on va en parler,
Entre ça, ils font des joueurs qui se blessent tout le temps et une équipe qui fait que des matchs nuls, qui gagne 2-3 fois de temps en temps cette saison. Ils sont pas hyper forts. Ils perdent 3-0 contre Tottenham en Ligue des Champions. Tu perds 3-0 contre Tottenham en Ligue des Champions, t'as des chances de t'en prendre 3 ou 4 contre Paris aussi. Parce que quand tu regardes, Paris c'est largement supérieur à Tottenham, à des clubs comme ça.
Oui, mais tu es jeune.
Oui, mais quand je regarde.
Tu as vu, on lui met une pièce de 1 franc, d'un euro maintenant, puisque c'est plus des francs. Et puis ça y est, il part. Hein.
C'est pas parce que je suis jeune que je sais pas forcément ce qui va se passer.
Il y a le réalisme des vrais matchs. Des vrais matchs.
On verra sur le vrai match. On peut plus parler de réalisme en Ligue des Champions, vu que l'année dernière, Paris, ils ont mis 4-0 au Barça et qu'ils sont pris 6-1 la semaine d'après. On peut plus dire qu'il y a de logique dans le sport.
Une question simple, il a lu quand le match?
Alors le premier, le 14 février.
Le jour de la Saint-Valentin.
Tous les mecs, bonne chance.
Non mais Georges, on va l'appeler, on va ouvrir les paris et puis on verra ce qui se passe.
Bah je pense que
Lionel, tu peux parier aussi si tu veux. Parce que...
Moi je serais juste témoin.
honnêtement,
il est suisse.
T'es comme moi, tu peux
dévoiler. Reste neutre.
Ouais, il est suisse. C'est un Italien de Suisse. Voilà, on reste neutre.
Ah bah l'Italie. Au revoir.
Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas très foot. J'aime bien multisport, mais il y a qu'un sport que j'accroche pas trop, c'est le foot. Donc je vous laisse parler.
Voilà,
t'as raison. Vu ce que fait l'Italie, de toute façon.
Bon, et puis le ballon d'or, dis-moi.
Alors le ballon d'or, l'arnaque du siècle, vous voulez dire. Cette année, on a récompensé donc Cristiano Ronaldo.
Encore.
Encore, alors qu'il le mérite pas. Voilà, tout simplement. Pour moi, ni lui ni Messi le méritent, déjà clairement, cette année. Pour moi, il y avait Gianluigi Buffon. Cette année, il y avait Gianluigi Buffon.
C'est pas un Italien, lui, Buffon.
Si, le gardien de la Juventus. Pour moi, c'est
il a quand même.
Pour moi, c'est lui, parce qu'il a 38 ans, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Il a jamais rien eu, alors qu'il mérite tellement.
Ouais, mais l'Italie était éliminée de la Coupe du Monde.
Ronaldo, il l'a pas mérité. Ils lui ont donné parce que le Real, ils ont gagné des titres. Mais quand tu regardes sa saison, c'est pas lui, c'est pas le meilleur buteur européen de la saison, c'est pas le meilleur marqueur, c'est pas le meilleur passeur.
Ils lui ont donné pour égaliser, pour avoir 5 ballons d'or d'affilée.
Quand tu regardes, à la base, le ballon d'or, c'est pour élire le meilleur joueur en individuel. Ouais. Derrière, il valorise un collectif. Il faut savoir, soit tu élis la meilleure équipe,
d'accord avec toi.
soit tu élis le meilleur joueur. Là, en l'occurrence, cette année, pour moi, les meilleurs joueurs, c'était Buffon, c'était le français. Alors pour moi, en français... Mbappé, non, parce que justement, il est trop jeune. Mais plus un autre français, N'Golo Kanté, qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue quand même la saison dernière. Première Ligue étant le meilleur championnat du monde. Excusez-moi quand même, le mec, est bon. Il y a des joueurs comme ça. Ronaldo, c'est...
Votre débat me plaît énormément. Il reste plus de 30 secondes. Alors, il n'y a pas de souci, continuez. Je vous écoute.
Non, mais là, moi, je partage son avis. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il allait être nommé.
Année, il n'y avait personne qui sortait du lot.
Ah, mais oui, c'est ça. C'est que cette année, pour moi, à part Buffon, parce qu'il le méritait à tout prix, et peut-être Kanté, parce qu'il a fait une saison incroyable, Ronaldo, il ne le mérite pas du tout. Il ne mérite même pas d'être sur le podium. Mais si c'est pareil, 2018, à mon avis, ça va être beaucoup plus dur. Parce que Messi, à mon avis, cette année, vous allez voir. Moi, je vous dis que Messi, cette année, il va tout casser.
Bon, c'est le mot de la fin. Allez, on fait une petite pause.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc si vous nous rejoignez, bah écoutez, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct depuis le studio de Carpentraser sur le 102.2. Et nous avons deux invités de marque ce soir. Georges Garcia, président du comité départemental de cyclisme et président de BMX Organisation. Rebonsoir Georges.
Bonsoir. Lionel. Lionel, oui, c'est vrai que j'ai Lionel à côté de moi.
De Lionel.
Il y en a deux.
Au niveau mémoire, c'est bon.
Oui, c'est vrai.
Et bien sûr, donc Lionel Beccari, oui. Qui est spécialiste du vélo.
Oui.
Tu es également correspondant vélo au journal La Provence.
Et oui, depuis 1998, ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Ah bah non.
Et tu es également donc speaker aussi auprès de, donc dans de grandes compétitions internationales.
Oui, VTT, sport extrême, etc.
D'accord. Alors, avant de continuer de parler justement de vélo, de BMX, on parlait tout à l'heure donc de la victoire de Carpentras. Hein, et on a au bout du fil Maxime Pala. Bonsoir Maxime.
Bonsoir
Maxime.
Allô.
Allô. Tu m'entends ?
Vous allez bien ? Oui, ça... je vous entends.
Ouais, ça va ? Rassuré ?
Impeccable.
Rassuré ?
On est un peu rassuré, ouais, tout à fait. Ouais.
Alors, le bilan par rapport au match d'hier, comment tu as trouvé le match ?
Alors, c'est un match qui était avec beaucoup de tension. Je ne sais pas si vous étiez au stade.
Si, oui.
Alors, il y avait Valérie et Alexandre qui étaient au stade,
en fait.
On
y était.
Voilà, donc, il y avait un peu de tension, un peu d'appréhension, parce que vous savez que c'était une équipe qui allait vendre cher sa peau, et puis ça a été le cas. Il n'y a pas de grand nom en face, mais ça a super bien joué malgré tout. Et puis bon, voilà, le temps, les conditions climatiques qui n'étaient pas super. On a gagné, on est passé par le petit trou de la souris, mais bon, au final, les trois points sont là, donc on va passer les fêtes un peu plus rassurés. Voilà.
Et sinon, vous vous attendiez à une telle opposition ou pas ?
En fait, le championnat Elite 2, réellement, tous les dimanches, il peut y avoir des surprises. Parce que le championnat s'est vraiment relevé, et donc, mis à part deux équipes qui sont vraiment... dont Baro, les Catalans qui sont leaders du championnat, et Villefranche de Rouergue, on peut rajouter aussi Ville-Gaillenc. Il y a trois grosses cylindrées qui sont quand même un ton au-dessus. Mais après, toutes les équipes peuvent faire des surprises. Salon a gagné contre Ferrals hier également, donc c'était une surprise, c'est le petit poussé. Donc il n'y a pas de petits matchs. Tous les dimanches, il faut mettre le bleu de chauffe.
Donc là, vous revenez de loin parce qu'effectivement, il y a eu une série de matchs perdus. Et là, c'est vrai que l'équipe s'est remobilisée et ça a porté ses fruits.
Ça a porté ses fruits, voilà. On a rapporté les trois points de Villeneuve-Minervois donc la semaine dernière. Donc des matchs à l'extérieur, aller gagner là-bas, bon, c'est toujours hyper important. Et puis, il fallait concrétiser le bon job des garçons aux entraînements, et puis bon, mais là, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon, mais on va pas se gargariser, mais voilà, il fallait vraiment qu'on se rassure avant la trêve, et donc là, c'est fait, on a pris 7 points en 3 matchs, on se recale dans le haut du classement, donc ça nous permet de pouvoir, bien travaillé là pendant la trêve et prochain match. Donc là, on a un match de Coupe de France la semaine prochaine.
Vous jouez contre qui ?
Donc là, on se déplace à Marseille, qui est une équipe de fédérale. Donc il y a quand même deux divisions en dessous de la nôtre. Donc c'est pour la Coupe de France. Voilà,
sur le papier, ça paraît un match simple.
Sur le papier, c'est un match simple. On se déplacera là-bas, on va respecter l'équipe de Marseille, c'est important, et on va essayer peut-être de faire souffler quelques joueurs qui sont un peu fatigués, il y a des rentrées, donc on va pouvoir faire tourner, je pense, ça c'est les coachs qui verront cette semaine, mais si on peut faire tourner des joueurs qui ont peu de temps de jeu, ce sera pas mal. Et puis on pourra ensuite se reposer en famille pour la trêve, passer un peu les fêtes tranquillement. Et puis, faut pas trop qu'ils mangent trop quand même, hein, parce que La reprise risquera d'être difficile, mais bon.
Et le prochain match de reprise, ça sera quand alors?
Alors le prochain match, on rattaque le 7 janvier.
Ah oui, effectivement.
Et on part chez nos amis de l'Escure, c'est-à-dire l'équipe qu'on a reçue ce week-end.
Ah, donc, il va y avoir de la tension dans l'air alors. Ils vont vouloir leur revanche.
Ah ben je pense que là, le match va rester chaud, quoi. C'est pas comme si on les prenait dans 2 mois. Match retour là directement chez eux, donc. Bon, ben voilà, hein. Il y avait un peu de tension à ce match-là, mais bon, il y a de vieilles histoires avec l'Escure. Oh, c'est chaud chez eux également, donc bon, on voyage bien, nous, donc il n'y a pas de souci. On ira là-bas pour faire un résultat, surtout que c'est des concurrents directs. Et il faudra faire un gros match chez eux, c'est sûr.
Voilà. Dernière question, il y avait Muriel Urtis qui était là mercredi.
Muriel Urtis, c'est... Oui, alors c'était une super après-midi. Mmh. Voilà, il est venu sur Carpentras, donc c'était à la Roseraie.
Il y avait beaucoup de monde.
Il y avait du monde, bah, tous les petits, les parents, puis bon, et après il y avait des officiels, etc. Les dirigeants du Crédit Agricole aussi de Carpentras. Donc c'était vraiment une belle après-midi. Les gamins étaient contents. Ils ont découvert Muriel Urtis. Ils ont pris des photos, les moins grands aussi, voilà. Donc on espère la revoir ben, l'année prochaine. Voilà, il y a un partenariat sur 3 ans avec les valeurs du sport par le Crédit Agricole, qui est partenaire du club. Et donc on était vachement contents, voilà.
Bon, mais c'était une belle fête. Donc l'année se termine bien.
Elle se termine mieux que ce qu'elle a commencé, c'est sûr. Donc là, on est content, voilà, parce que c'est positif. Et puis, on a du boulot encore sur la planche, on le sait. On vient de loin, mais je pense qu'à Carpentras, on a quand même beaucoup de joueurs de caractère et je pense qu'ils vont se révéler là dans les mois qui arrivent, je l'espère, pour arriver au bout, quoi, pour essayer de gratter. Une demi-finale au minimum, quoi. Donc il reste du boulot, c'est certain que ça, on n'aura pas un claquement de doigts, il va falloir bosser dur.
Et justement, donc, par rapport à ça, Maxime, ouais, par rapport à ça, justement, tu sais, bon, là il y a eu effectivement de grosses discussions dans le club, dans l'équipe, justement, par rapport à toutes les défaites. Il y a eu quand même un remaniement au niveau de l'équipe ou non? Vous avez quand même gardé l'intégralité de l'équipe?
Non, il n'y a pas de remaniement, hein. L'équipe est toujours là. Après, c'est certain qu'on a eu de la malchance cette année, hein. On a rarement enchaîné 2 matchs d'affilée avec les mêmes joueurs au même poste. Donc, ce qui nous a, voilà, avec les blessures, etc. Donc là, on est en train de retrouver une stabilité. La charnière est en place avec le Thibaut Santoui qui a fait une belle partie hier.
Oui, très belle partie.
Ouais, à la mêlée, Jordan Richard en ouverture. Donc ça y est, on commence à avoir on se cherchait, quoi, tout simplement, hein. Il y avait des joueurs qui étaient peut-être moins bien à certains postes. Et là, je pense que les entraîneurs ont trouvé la bonne mayonnaise que c'est en train de prendre. Vincent Conta a fait son retour aussi après quand même une blessure assez longue. On l'a gardé un peu sur le banc en seconde mi-temps parce que ça sifflait un peu quand même. Donc on voulait pas le fatiguer plus, mais il a fait une bonne rentrée. Et puis voilà, après, bon, tout le monde est à féliciter réellement, hein, parce que c'est des matchs qui sont toujours compliqués là, avec la pluie fine, le froid. C'est sûr que c'était pas un super beau rugby, parce que
les conditions étaient difficiles.
La pluie,
les ballons glissants.
Bon, on a vu des belles actions quand même.
Ah oui,
franchement.
Il y a eu des actions, heureusement. Mais certains, je pense qu'on a des joueurs, c'était plus le jeu de l'Escure, hein, c'est un temps de chez eux, ça, hein, de toute façon. Hein. Ils ont l'habitude de jouer sur les terrains gras comme ça.
Oui, mais ça leur a pas porté chance.
Ça leur a pas porté chance, tant mieux pour nous.
Ah oui.
Mais bon, il faut garder vraiment l'objectif, c'est de bosser et puis de prendre les matchs les uns après les autres. Et voilà, l'Escure chez eux, ce sera pas de la tarte. Donc il faudra bien enchaîner. Et puis après, par contre, on va enchaîner pas mal de matchs à la maison. Donc il y a de quoi se refaire la cerise, réellement.
Bon, mais en tout cas, si tu peux faire le relais de la radio RTVFM, justement, auprès de tous les joueurs, hein, de les féliciter, justement, pour cette victoire et puis bon, pour cette fête saison. Et puis, ben, on vous souhaite un gros mot pour
la nouvelle année 2018.
Et puis aussi pour la semaine prochaine.
Et pour la semaine prochaine, oui.
Pour la semaine prochaine, Marseille, dimanche. Donc, voilà. On veut essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Donc, ça, c'est important. C'est un objectif du club. Donc, c'est une petite équipe là, mais il faut respecter vraiment toutes ces petites équipes. Et puis, espérant essayer d'avoir un bon tirage d'une équipe d'élite 1 à la Roseraie, parce que c'est aussi le but, quoi. Faire venir une belle équipe d'élite 1, ce serait sympa pour nos supporters.
Alexandre est tout content.
Ouais, bah, quand il y avait eu Carpentras-Catalan, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'était génial, en vrai, il y avait, le stade il était plein et tout, c'était cool. Ça faisait plaisir de voir le RCC comme ça.
Bon.
Les joueurs, c'est beau pour les joueurs de jouer des belles équipes, donc c'est pour ça qu'on joue au rugby. Donc, mais bon, il faut gagner les matchs avant, voilà, il n'y a rien sans rien.
Allez, dimanche vous gagnez, puis on en reparlera lundi prochain. Mais en tout cas, merci beaucoup Maxime Pallave, donc manager de l'équipe première, d'avoir de nous avoir pris au téléphone. On te souhaite de passer une bonne soirée, et puis un gros mot pour dimanche prochain.
Bonsoir.
À tout le monde. Au revoir.
Bon, on refait une petite pause musicale, et puis on va parler vraiment de vélo, donc on change totalement de discipline. Allez, à tout de suite.
What about us?
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc de retour dans le studio. Valérie a dû s'absenter, hein, en tout cas nous écoute dans sa voiture, hein, parce que bien sûr vous pouvez nous écouter sur le 102.2. Il y a également l'application, je ne sais pas si tu l'as téléchargée Alexandre.
Ah, il y a une application RTVFM.
Alors, pour quelqu'un qui travaille à la radio, alors franchement...
On me tient pas au courant. Hein,
ça fait déjà un certain nombre d'années, mais bon, c'est pas grave.
Bah, après, moi, la radio, à part RTVFM...
Heureusement que le président t'écoute.
Moi, j'écoute la radio sur ça, j'ai l'application voilà. Radio.
Donc, il y a
base.
Une application pour Android, pour iPhone, bon, pour tout, pour les téléphones. Donc, tu n'as qu'à la télécharger, tu verras, c'est super bien. Messieurs, pareil, vous pouvez la télécharger. Au moins, tu auras pris quelque chose à l'écran ce soir.
Exactement. Et ceux qui n'ont pas l'application, ils vont sur le 102.2.
Ouais, ou sur rtvfm.net.
Moi, je vais sur le 102.2.
Très bien. Bon. Donc, nos invités, Georges Garcia et Lionel Beccari. Messieurs, donc, votre spécialité, c'est le vélo. Parce que, donc, Georges, toi, tu es président du comité départemental de cyclisme. Ça fait combien de temps?
Oulala. Non, pas tant que ça.
Un peu quand même.
Non.
C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête, mais il est aussi vieux que ça, Lionel.
On ne s'attaque pas au physique, hein, s'il vous plaît. On n'aborde pas ce sujet-là.
Pas du tout. C'est une observation, même on est admiratif.
Voilà, d'accord. C'est l'intelligence qui ressort. Non, ça fait 9 ans et j'attaque ma 10e année. Ma 10e année. Voilà.
10 ans.
Non, 9 ans et j'attaque ma 10e. Ouais. On est au début de la 10e.
Tu vas fêter, tu fais un petit anniversaire
Non. Non, c'est l'anguille la 12e pour célébrer la fin d'une trilogie olympique et voilà, pour en faire un peu le bilan au terme de ces 12 années. On verra.
Et comment tu as fait pour en arriver là justement à cette présidence? Mais tu es issu, tu as fait du bicross, tu as fait du vélo de route Parce que c'est vrai que tu es quand même assez calé dans tous les sports, mais au final, on ne sait pas quel sport tu fais.
On va parler de moi si vous voulez, mais.
Bah oui, on a envie de te connaître. Et après, on parlera de Lionel.
En fait, j'ai pratiqué beaucoup de sports à Carpentras. Le sport que j'ai le plus à cœur, c'est l'athlétisme, notamment le cross. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Madame Seden, et puis j'ai une pensée pour Monsieur Seden, parce que ça a été mes premiers entraîneurs il y a très, très, très longtemps. Voilà. Et ils sont encore là. Donc j'ai fait du basket, j'ai fait beaucoup de sport aussi en UNSS et en ASU, c'est-à-dire du handball et du basket et du vélo de route, mais vraiment de manière loisir, pas de compétition ou autre. Voilà, donc j'ai été multidisciplinaire. Il n'y a que le foot une seule fois. J'ai fait un entraînement, on ne m'a pas pris, je suis parti. Voilà.
Non. Le sport collectif, c'était pas trop à part. Bon,
Oui, le handball, c'est collectif quand même. Oui.
À part le handball.
Oui. Ça, tout me plaît, le foot aussi, mais bon, apparemment, j'étais pas doué pour ça. Ou alors, j'avais des copains qui étaient bien meilleurs que moi, donc voilà.
C'est souvent comme ça.
Donc, du coup, on se met sur le côté, on regarde et puis voilà, on admire. Voilà.
On est choisi en dernier au match et tout.
Oui, voilà.
Ouais, je connais ça.
Tu connais ça c'est pour ça que t'as arrêté le rugby en fait.
Non, c'est pour ça que j'ai fait du rugby, justement, parce que foot c'était pas pour moi, j'ai les pieds carrés.
Ça c'est ballot ça.
Non, mais on connaît tous cette situation, vous savez, quand vous êtes enfant, qu'à chaque fois il y a les matchs, des matchs de centre aéré ou des trucs comme ça, et il y en a deux qui choisissent ses équipes et vous êtes pris en dernier.
Oui, voilà.
Ça,
oui,
vous sentez l'humiliation parce qu'il n'y a qu'une fille à côté de vous et la fille elle est prise avant vous en plus.
Ça c'est du vécu ça.
Mais tu rigoles, mais c'est ça.
Non, pas ce point.
T'as connu ça, Lionel aussi toi?
Ah non, désolé.
Non, bah tu vois, il n'y a que toi, Alexandre.
Bah moi j'étais nul au foot. Hein.
Donc, t'as fait tous ces sports, mais président du comité départemental, c'est quand même. Une belle distinction, c'est de grosses responsabilités.
C'est plus une responsabilité, je ne cherche pas les distinctions ni les décorations, loin de là. Non, il se trouvait que, venant de l'athlétisme, voilà, il y a des choses que je n'avais pas vécues, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sectarisation, par contre, il y avait un peu des antagonismes. Voilà. En athlétisme, je n'ai jamais vu les lanceurs se dénigrer les coureurs ou dénigrer après les sauteurs. Là, dans le vélo, ça a été particulier. Je suis arrivé par le BMX, mes enfants en ont fait, donc j'ai ouvert ma gueule, comme on dit, et puis du coup, prendre des responsabilités, puisque tu es là, puisque tu l'ouvres, fais-le. Donc on s'est investi, on a retroussé les manches, on a travaillé. Et puis, il y avait quand même une ancienne génération qui était issue du vélo de route, qui a vu arriver les nouvelles disciplines un peu par crainte, pas tous, parce qu'il y a des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées
Mais le clivage que tu parles, c'est entre le vélo de route, le bicross.
Le vélo traditionnel, on va dire. Le vélo traditionnel, et puis après, qui a vu arriver le VTT. Et parfois, ils ont vu ça un peu comme des personnes qui leur enlevaient des pratiquants, alors qu'au contraire, c'est venu justement s'additionner. Voilà.
C'est malheureusement beaucoup de fédérations.
Oui,
il y a des fédérations, comme la Fédération française de natation, qui, la natation, a, on va dire... beaucoup d'adhérents, donc beaucoup de finances, et derrière, tu as la natation synchronisée, le plongeon, qui sont un peu les disciplines pauvres de la fédération, et donc c'est vrai qu'il y a toujours des petits clivages entre ces différents sports, quoi. C'est
dommage.
Oui,
mais sans vouloir trop critiquer les générations d'avant, mais je pense qu'ils ont, au lieu de voir les nouvelles disciplines comme un supplément et pour attirer la jeunesse, parce que bien sûr, aujourd'hui, il y a une diversité de disciplines bien plus grande que lorsque nous étions jeunes. Hein. Aujourd'hui, et puis après, il y a autre chose qui est arrivée pour justement venir concurrencer le sport, c'est le canapé. Hein. Nous, on avait encore les filles.
Et la fameuse console.
Donc voilà, ils auraient dû voir ça comme une chance de voir de nouvelles disciplines arriver, fun. Et c'est le cas parce que elles sont venues s'additionner. D'ailleurs, j'ai des fois des anciens chiffres des années 70. Et en fait, on a plus de licenciés route aujourd'hui que dans les années 70. Et plus de licenciés VTT et BMX. Donc c'est venu s'additionner, ça n'est pas venu se soustraire.
Tu parles au niveau France ou au niveau départemental?
Alors je vais parler au niveau départemental. Au niveau départemental.
Parce que c'est quand même une région de cyclisme avec le Mont Ventoux.
Oui.
Il y a beaucoup de cyclistes. Hein.
Après il faut aussi... excuse-moi, mais moi je représente quelque part la partie sportive, la pratique sportive. Et pas forcément uniquement que de compétition, mais la pratique sportive. La Fédération française de cyclisme est celle qui est la fédération délégataire auprès du ministère de ces sports pour toutes les pratiques qui sont olympiques aujourd'hui. Hein, c'est tout bête, mais le Tour de France, il faut rappeler que le Tour de France, c'est une déclaration FFC. Voilà. Bon, maintenant, après, au-delà de ça, il y a une chose, c'est que nous représentons une infime partie des pratiquants. Parce que des pratiquants vélo, je crois qu'il y en a peut-être 6 millions en France, que ce soit en VTT.
En pratique libre, tu parles.
En pratique libre.
Oui,
voilà,
sans forcément une licence ou des choses comme ça.
Voilà. Donc là, j'interviens, toi, si tu veux, Lionel, pour expliquer ça. Mais c'est vrai
Et puis, moi, quand tu parles de cyclisme traditionnel, cyclisme sur route, il faut aussi savoir que les disciplines émergentes de l'époque, qui étaient le VTT, le BMX, ont mené aussi des anciens pilotes VTT, BMX, au vélo de route. Quand on parle de Cadel Evans, quand on parle des McEwen, des choses comme ça, ils viennent du BMX, ils viennent du vélo de route. Donc ça a aussi mené maintenant à l'activité Rameau, voilà. Ça a ramené aussi de la fraîcheur dans le vélo de route.
Samuel Dumoulin aussi.
Oui, mais il y en a beaucoup.
Il y a un paquet comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au vélo de route finalement par ça. Alors c'est pas une finalité obligatoire d'aller sur la route. Mais voilà, c'est venu un complément, c'est venu enrichir la pratique vélo. Et voilà, donc pour revenir à cette histoire de département, on a un peu protesté, finalement on a pris le comité, et une des premières tâches que je me suis donné, c'est d'essayer d'en finir avec tout ça. Voilà. Et je peux penser qu'on y est arrivé, et on y est arrivé à travers une catégorie que j'affectionne beaucoup, c'est la catégorie des féminines. Voilà.
Alors
parce que j'ai une fille qui en a fait. Hein,
non, mais pas le fait que... Mais... Y arriver par les féminines, c'est...
Oui, parce qu'elles sont, moins nombreuses. Donc du coup, elles sont peut-être plus ouvertes aussi au dialogue. Elles s'apprécient plus entre elles. Voilà. Donc on a fait des stages, dont je suis très fier, des stages de cohésion. Et aujourd'hui, elles s'encouragent entre elles, quelles que soient les disciplines. Donc, voilà. Et même au niveau des dirigeants, quelque part, ça a contribué à ce qu'aujourd'hui, je n'entends plus des personnes dénigrées.
Et puis, elles vont découvrir avec vraiment un réel plaisir les autres disciplines. Ouais. Elles ne restent pas dans leur sport, elles n'hésitent pas à aller sur des univers différents, c'est sympa aussi.
C'est peut-être parce que les hommes, enfin les garçons en général, il y a un esprit de compétition qui est peut-être plus...
Oh, il faut se méfier des filles.
Oui, je sais que les filles, ouais, il y a un gros esprit de compétition.
L'esprit de la compétition
chez les garçons, je trouve qu'il y a un orgueil peut-être en plus. Peut-être une volonté de vraiment de s'imposer, de dire ouais, moi je suis le meilleur.
Tu n'as pas tort, parce que moi j'ai vu des garçons se faire, entre guillemets, excuse-moi l'expression, démonter par des filles. Ça, oui, ils l'ont mal pris.
Ils l'ont mal pris.
Et ils ont vu.
Ils
n'ont
pas très fair play, les garçons.
Non.
C'est qu'on a un orgueil en plus, je trouve. On a tendance à plus.
L'esprit un peu macho, il faut balayer vite. Voilà.
On a tendance à plus vouloir faire mieux que tout le monde, plus forcément. un peu plus que les filles, je trouve.
Et la parité, justement, de féminine, au niveau du département, même au niveau national, c'est combien à peu près?
Ah non, là, on est alors très, très mauvais. C'est pour ça qu'il faut y travailler. Alors, je suis content au niveau du département. Nous, on est au-dessus de la moyenne nationale. Je parle au niveau des licenciés fédérales.
Oui, mais de toute façon, il faut qu'on parle de ça, parce que voilà. C'est quelque chose qui est concret.
Oui, alors là, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est en quoi le cyclisme, sous toutes ses formes, serait plus masculin que féminin. Ça, je ne comprends pas. Et d'autant plus qu'on fait des fois des initiations hein, avec des gamins et des gamines de 3 à 6 ans hein, qui viennent sur des draisiennes, sur des espèces de bosses. Là.
Mais c'est flagrant sur la draisienne oui. Où on a beaucoup de filles.
Mais on arrive à des taux.
Et
des
là, on
taux
parle d'enfants de 2-3 ans.
Hein. On arrive à des taux de fréquentation de 50%, voire même 60% oui. De filles. Et parfois, je leur dis, pour essayer de titiller, pour les attendre un peu leur fierté aux filles, je leur dis, mais pourquoi vous venez? De toute façon, vous finirez au poney.
Alors, c'est comme tu es, Georges.
Non, je le dis pour essayer de susciter un peu leur fierté et puis peut-être de rester dans le vélo. Parce qu'elles demandent à faire du vélo. Et donc, je vais revenir sur ce pourcentage. Au niveau fédéral, nous sommes à 10% de licenciés. Nous, le département.
Faible.
C'est très faible.
Ça peut évoluer, on le voit avec le matériel. On a des gammes complètes pour les filles, ça n'existait pas avant, avec des catalogues complets d'accessoires de vélos uniquement pour les filles.
Donc, alors pourquoi ça ne bouge pas?
Si, mais elles vont
mais parce que peut-être parce que dans l'inconscient social des familles, voilà, ben on va au poney. Je veux dire, il y a des fois, je vois des réticences des parents. J'ai un garçon, un frère, une sœur, et les parents me proposent naturellement le garçon. Et la fille, elle en meurt d'envie. Alors moi, bien sûr, je dis non, mais elle peut en faire aussi. Et parfois, peut-être dans la culture, eh ben, il y a encore du
voilà,
travail à faire
culturel,
là-dessus.
Donc. Oui, voilà.
Tout à fait. Voilà.
Bon.
Ouais, bah, ouais, c'est vrai quand tu regardes les compétitions et tout, c'est souvent une compétition de vélo. Tu regardes, il n'y a jamais de compétition de vélo fille. Hein.
Si, il y a un calendrier mondial, mais il n'est pas du tout médiatisé.
On ne les voit pas, on ne connaît pas. Quand tu vois les sports de vélo à la télé,
enfin,
c'est dit, que des hommes.
Hein. Et que tu vois le paradoxe, la sportive, tout sexe confondu, la putitrée en France, c'est Anne-Caroline Chausson.
Non, voilà. Raté, pas Jeannie Longo. C'est une voisine. Elle est à quelques kilomètres d'ici.
C'est Anne-Caroline Chausson.
C'est 19 titres de championne du monde, un titre de champion olympique.
Ah.
Voilà, pour
remettre les choses à leur place.
Donc quand elles pratiquent, elles sont fortes.
Extrêmement fortes, oui.
Allez, on fait une petite pause et on va parler justement du comité, des missions, des clubs licenciés. Allez, à tout de suite.
Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Après cette petite pause musicale, nous revoici avec nos invités, Georges Garcia et Lionel Beccari, pour parler justement de la pratique cycliste dans le département, déjà, ça c'est la première chose, et au niveau français. Déjà au niveau du département, il y a combien de clubs qui sont affiliés au comité départemental ?
Eh bien, il y en a 32, exactement, 32.
C'est, par rapport à la moyenne nationale, c'est correct ?
Alors, on peut raisonner par rapport au bassin de population, voilà, plutôt. Voilà. On est dans la tranche haute, voilà. C'est-à-dire que, alors après, le terrain l'explique, hein, il est beaucoup plus difficile de faire du vélo en agglomération, voilà, sur Marseille, imaginez faire du vélo, donc, où on le fait en campagne, mais après il faut sortir des grandes métropoles pour pouvoir bien pratiquer en toute sécurité. Voilà.
Après, on parlait du nombre de pratiquants, c'est vrai que la parité homme-femme n'est pas forcément respectée, 10% de femmes de ce que j'ai pu comprendre, mais globalement, vous avez combien de pratiquants recensés dans le département ?
Alors, des pratiquants de vélo, parce que quand j'ai dit 32 clubs, sur les 32 clubs, il y en a certains qui sont des clubs organisateurs. Ça, on en a un bon tiers.
Quand tu parles d'organisateurs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout de pratique vélo ?
Ben, je vais parler déjà, ben, de mon cas. Hein. Nous sommes une association, enfin, un club affilié, ça s'appelle BMX Organisation, où on sert pour mutualiser des manifestations. Et, sauf qu'on n'a pas de pratiquants dans le club. Nous ne sommes que 6, et il y en a beaucoup en cyclisme sur route.
Il n'y a pas eu un champion de France quand même, ou quelque chose comme ça, un certain Romain, non ?
Oui, oui, Romain.
Oui, quand même, il a eu un champion de France. Oui, bon, oui, c'est oui. Pas grave, allez.
Non, mais
bon, bonjour, Georges Voyon.
Non, mais c'est pas ça, c'est que nous sommes un club neutre et Romain, qui est un encadrant indépendant, a préféré s'affilier chez nous. Alors, c'est notre fierté, oui, oui.
C'est beau quand même.
Ah oui, on a le plus fort.
C'est bien de le mettre en valeur.
On a le plus fort taux de réussite. Un licencié, un champion.
Et voilà, c'est du 100%.
C'est 100%.
C'est magique.
Donc là, on bat tous les records. Non, mais bon. Alors,
vous êtes trop fort.
J'adore Romain, il n'y a pas de souci et il ne m'en voudra pas de l'avoir oublié. Par contre, au niveau des pratiquants purs, on va dire des licenciés, du plus petit au plus grand, on doit être à peu près à 1300 licenciés sur un total de 1500.
Donc voilà. C'est bien.
Oui, voilà.
C'est une bonne moyenne.
C'est une bonne moyenne.
Et par rapport aux dernières années, est-ce que tu penses que le vélo, justement, c'est en phase montante, descendante ?
Alors, excusez-moi de toujours reparler de nos licenciés, hein, voilà, parce que il y a.
Ah non, mais moi je parle de ça.
Oui, après, non, mais parce que quand on parle de pratiquants en vélo, il se peut qu'il y en ait.
On va dire, on va rester dans le département, parce que c'est vrai qu'on va quand même parler de choses qui te concernent directement et que tu connais. Sinon, après, tu peux me dire le nombre de participants qu'il y a en Corse, par exemple, ça m'intéresse.
Voilà, non, mais c'est que c'est peut-être. C'est pas que je veux être trop modeste, mais j'essaie toujours de relativiser. J'aime pas parfois ni jouer les cadors, ni rabaisser les gens, mais quand par exemple il y a des clubs qui sont pratiquants et qui ont beaucoup de licenciés, je dis toujours oui, mais à côté de ceux qui ne sont pas licenciés, il y a encore un potentiel énorme. D'ailleurs, je suis le représentant de la Fédération française de cyclisme au sein du département de Vaucluse, et ceci dit, il est vrai que 1500 licenciés pour peut-être, je ne sais pas moi, je veux dire une ânerie, mais peut-être 20 ou 30 000 pratiquants tous les jours dans le Vaucluse, on peut se poser des questions. C'est pourquoi licencier, pourquoi pas licencier, voilà. Donc à ce jour, on a eu un effritement depuis quelques années, dû essentiellement au BMX, il y a eu des clubs qui ont eu des hauts, des bas. Là, ça remonte. Nous avions atteint à peu près 1700 licenciés il y a encore quelques années. Et là, on est descendu jusqu'à 1300, 1400. Et là, nous sommes à 1515. Bon, exactement. Voilà. C'est un bon chiffre, mais on espère remonter parce qu'on a un potentiel énorme encore.
C'est une bonne chose.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait.
Et juste au niveau du comité départemental, vous avez un certain nombre de missions. Quelles sont les principales ? Parce que bon, toi, ça fait bientôt 10 ans hein, que tu es à la tête. Tu as axé, on va dire, ta présidence sur quels axes principaux ?
Eh bien, nous, il est très difficile. Enfin, on se veut le lien avec la fédération et les clubs. Nos actions sont surtout pour essayer d'encourager, de valoriser les actions des clubs. Parce que le cœur de la pratique du vélo, ce sont les clubs. Les clubs qui apportent un encadrement. Et nous servons aussi de relais entre les clubs et les collectivités. hein, pour les demandes de subventions ou autres. Après, nous faisons des actions fédératrices. Parfois, vous voyez, quand on veut valoriser les féminines, il me semble plus opportun que ce soit un département qui le fasse qu'un club. Un club aura 7, 8. Mais nous, si on fédère, on peut avoir un nombre beaucoup plus important, puisqu'on se situe à l'étage au-dessus. Voilà. Donc, on essaie de valoriser leurs actions auprès des collectivités. On essaie de faire des actions fédératrices. Parfois, il nous arrive de faire des sélections aussi, parce qu'il y a des courses pour lesquelles on ne peut y participer que sur sélection. Donc, je pense notamment aux interrégions cadets. Route, où là, bien, elles y vont sur sélection Vaucluse. Voilà. Donc voilà, on a un peu ces actions-là.
Et est-ce que vous participez à l'aménagement du territoire ? Parce que c'est vrai que là, il y a quand même de belles pistes cyclables qui ont été créées, parce qu'il faut dire que la route est dangereuse quand même. Hein. Oui. Je sais pas, Lionel, tu dois, toi, en tant que correspondant vélo, c'est vrai que c'est un sujet qui doit revenir de manière récurrente.
En toute clarté, j'étais d'abord vététiste. Par la passion du vélo, j'ai fait beaucoup de vélo de route. Et aujourd'hui, j'hésite à aller sur de la route. J'ai du mal maintenant avec les téléphones portables, tout ça, voilà, à aller sur le vélo de route. Alors j'en ai fait énormément, mais je me sens plus trop en sécurité en vélo de route. Et au niveau des jeunes, je préfère qu'ils soient sur une piste de BMX ou qu'ils soient dans les bois que sur la route aujourd'hui.
Oui, enfin, moi je.
C'est ma vision. Hein,
oui. Personnelle. Moi, je me veux plus fédérateur et j'ai beaucoup d'admiration, par contre, pour les écoles de cyclisme qui ont un énorme mérite parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'amener des gamins, hein, de gamins de 7
sur un espace ouvert,
sur un espace
qui est la
ouvert.
Route, plutôt que sur une piste de BMX ou dans les bois.
Voilà, voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour des clubs comme Montfavé, comme Bolène, comme le Vélo Club de Tourgadagne et comme deux autres écoles de cyclisme qui viennent d'ouvrir, Sorgues et l'île sur la Sorgue aussi, parce qu'il faut vraiment un courage énorme et un cœur, une passion dévorante pour arriver à encadrer ces jeunes.
Et vous, au niveau du comité, donc, par rapport à ma question, est-ce que justement, comme le département fait pas mal de choses, que c'est souvent des pistes, il y en a une qui va ouvrir bientôt à Carpentras, qui est magnifique, j'ai perdu le nom.
Oui, c'est la Via Venezia.
La Via Venezia. Donc c'est vrai que ce sont des pratiques, on va dire, des pistes qui sont sécurisées, sécurisantes. Oui. Donc est-ce que
on est malheureusement très en retard, même au niveau européen par rapport à ça. Moi j'ai eu la chance de faire la route verte au Canada. On fait des centaines de kilomètres de Montréal à Québec. On peut même aller jusqu'en Floride sur des voies privatives pour les vélos. Et c'est comme ça que ça marchera. Alors on se réveille, mais on est en retard. Tant qu'on sera avec les voitures, ça sera compliqué.
Oui, alors là, on est consulté de temps en temps, mais je ne suis pas le seul concerné, parce qu'il y a aussi les cyclotouristes, nos amis cyclotouristes, qui eux pratiquent la route tout au long de l'année, et eux, ils sont vraiment concernés, parce que souvent, lorsqu'il y a des accidents, malheureusement, c'est eux qui en payent le lourd tribut. Hein. Oui, alors là, si on se met à rentrer sur un débat sur l'aménagement du territoire et nos architectes urbanistes qui nous font des coupe-gorge, je sais pas, qui mettent en danger les cyclistes, alors là, on s'arrêterait pas.
Le problème, si tu veux, je pense que pour parler de l'augmentation du nombre de licenciés, peut-être aussi des féminines ou des enfants, c'est vrai que l'aménagement du territoire fait partie. Moi, je discutais avec pas mal de cyclistes, etc., qui me disent, mais si tu savais comme c'est dangereux. Bon, après, il y a certains automobilistes qui considèrent que les cyclistes ne respectent pas la route. Donc, il y a toujours ce dilemme entre l'automobiliste et le cycliste.
Le partage de la route.
Et le partage de la route. Et c'est vrai que c'est un gros, gros dilemme. Hein.
Oui, mais à la fin, c'est le cycliste qui perd. Hein, et qui perd la vie. Parfois.
Malheureusement. Alors, pour en revenir justement au comité, il y a un bel événement qui a été organisé le 1er octobre. C'était une nouvelle course pour les écoles justement de cyclistes qui c'était à Sorgues.
Oui, tout à fait. C'est le club de Sorgues qui a voulu organiser une course école de cyclisme alors qu'il n'avait pas de jeunes justement. De là a découlé une amorce d'école de cyclisme. Et bien sûr, ils ont quand même été aidés par mon ami aujourd'hui, Frédéric Poche, que tu connais bien, Lionel. Oui. Qui est un amoureux du vélo, qui vit vélo, qui respire vélo, qui transpire vélo. Parfois même, en le voyant, il me fatigue, mais c'est quelqu'un de très méritant. Lui et son épouse, je ne les oublie pas, qui sont des passionnés et qui œuvrent pour le cyclisme. Voilà, ça sont des gens aujourd'hui qui œuvrent vraiment pour le vélo.
Et donc c'était un bel événement.
Belle récompense ce week-end, j'ai pensé à eux très fort. Oui. Parce que c'est vrai que leurs enfants, on les a connus aussi tout petits. Et de voir un Romaric aujourd'hui champion PACA junior, alors que je le vois presque encore en minime, et voir Victoire pareil titré, ça doit faire plaisir quand même.
Et oui, et même si leurs enfants aujourd'hui sont grands, ils continuent à s'occuper des écoles de cyclisme avec cœur, oui, avec amour, seraient, voilà, avec passion.
Ils seraient pas obligés.
Et voilà, et je me devais aujourd'hui d'en parler justement, mais c'est grâce aussi à eux que ils ont pu Sorgue a pu organiser cette école, cette première.
Donc un bel événement. Et puis il y a un autre événement, c'est au niveau du cyclo-cross, où là effectivement il y a de beaux champions ici.
Ah oui, oui, là, ben là carton plein, là je suis très fier en tant que.
Ah, c'est tout frais là.
Oui, oui.
C'était hier.
C'était hier et je suis très fier. Très très fier parce que.
Alors vas-y, dis-nous tout.
Ben, parce qu'il y avait les premiers championnats PACA cyclo-cross. Voilà.
Ils étaient où ? Ils avaient lieu où ?
Au Bossé, c'était dans le Var. Mmh. Alors pas comme le Bossé ici, le petit village.
Non.
Et non, mais je n'ai pas besoin que tu me montres les résultats. Je les connais par cœur.
C'est parfait.
Je te remercie, mais je les sais.
Donc, c'était un championnat historique. D'abord, voilà, replaçons les choses.
Voilà. Et sur 7 titres possibles, eh bien, le Vaucluse en a eu 5. Voilà.
Oh, c'est magnifique.
Ah, ben, oui,
et
oui.
C'était un championnat PACA. Ça, c'est complètement nouveau aussi. C'est-à-dire que c'était à la fois la Côte d'Azur et la Provence.
Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant.
Avant, avec un champion élite qui était quand même le quatrième mondial en VTT. C'était pas un tempier aussi.
Voilà, donc, voilà,
très relevé.
Donc on a un titre chez les seniors, enfin chez les espoirs, je crois. C'est alors ça, oui. Par contre,
ah, là, t'as besoin.
Oui, oui, c'est bon.
Non, parce que c'est normal.
Il est grand. Donc voilà, c'est Delpech, hein, qui est du Vélo Rock.
Du Vélo Rock Cavaillon.
Nous avons après Romaric Ploche, alors qui a fait une superbe course. J'étais pas là, mais
magnifique.
Vu ce que j'ai vu sur le journal La Provence, c'était magnifique. Donc champion de PACA junior. Il faudrait que je m'y fasse. Ensuite, chez les féminines, Victoire Ploche, alors la sœur de Romaric, qui a du caractère, qui a du peps, qui est championne cadette. Voilà. Ensuite,
Et chez les filles aussi, Marine Philippe, de la Cébaume de Venise, deuxième chez les dames.
Ah, ben voilà, donc on a le podium complet.
C'est un carton plein, ouais.
Ensuite, chez les cadets, alors Lucas Grieco aussi, voilà, qui est un jeune espoir. Pour l'instant, on ne va pas le griller, mais qui nous promet de belles choses, qui est toujours avec le club de Torgadagne, d'ailleurs. Et puis, Vandelli, Lucas Vandelli, qui lui est
de... le troisième aussi chez les cadets, toujours pour le Torgadagne. Marius Guérin, ex-VTT, qui était entouré quand même du Vélotor Gadagne chez les cadets.
Voilà, merci de préciser.
Non, parce que ex-VTT, pour les cyclistes, ça parle quand même. C'est une grosse structure. Et là, voir le Vélotor Gadagne qui entoure premier et troisième sur un championnat PACA.
Là, on a un petit phénomène aussi qui nous vient de Bolène, Lucas Vandelli. Pour l'instant, il faut qu'on le protège parce que c'est un gamin qui peut nous faire nourrir beaucoup d'espoir. Voilà. Donc voilà, on a un bon vivier. Et j'en suis très fier. Voilà, je les félicite ce soir.
Aussi. En tout cas, nous aussi, on les félicite. En tout cas, félicitations aussi à tous les entraîneurs. Et nous, on va faire une petite pause. Et juste après, on va parler de Avignon Vélo Passion.
Ah
parce
bon
que c'est un événement qui est même, je crois que c'est une première édition.
Oui, il paraît.
C'est ce qu'on nous a dit.
Allez, on va en savoir juste après ça.
Merci.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà donc de retour dans l'émission RTV Sport pour la dernière partie justement de cette émission, toujours en très très bonne compagnie avec Georges Garcia, président du comité départemental de cyclisme et président de BMX Organisation, et Lionel Beccari, spécialiste vélo, correspondant vélo au Journal de la Provence, speaker et speaker de Avignon Vélo Passion, hein, c'est ça ?
Eh oui, et une première, c'est vrai que ça fait très plaisir de commenter à la maison. J'ai la chance de commenter un petit peu de partout dans le monde, Canada, Chine, sur des gros événements. Mais là, être à la maison avec une si belle épreuve. On a conclu ce week-end donc, la saison des Indoor BMX à Saint-Étienne, 1600 participants. Avec la victoire le samedi soir de notre Sylvain André, numéro 1 mondial, Cavaillon, vainqueur de la Coupe du Monde, bravo. Vice-champion du monde, j'ai de la peine à le réaliser toujours, la saison qu'il a fait Sylvain, mais c'est juste fou. Le titre mondial qui lui a échappé pour 38 centièmes face à l'américain Corbin Sara, c'est rien.
38 centièmes, c'est rien.
Troisième au championnat d'Europe, numéro 1 mondial actuel, il a gagné la Coupe du Monde. C'est-à-dire, en fait, ce sont des compétitions à travers le monde entier, sur une saison complète. Dès le mois de mai, il était leader. Il est resté leader jusqu'en septembre en Argentine, où en patron, il a su s'imposer. C'est vrai que c'est fou ce qu'il nous a fait.
On le verra.
Et justement, alors, il devait commencer la saison aux États-Unis et il retarde sa saison aux États-Unis puisqu'il a fait tout le championnat US aussi, avec là aussi des superbes victoires face... à ceux qui sont nos idoles, mais là, Sylvain est un de nos idoles maintenant, hein, vu le palmarès. Et il retarde sa saison aux États-Unis pour être présent à Avignon Vélo Passion sur l'indoor qui sera en fait l'un des trois indoors en France. Il n'y en a que trois. Voilà. Et on aura Avignon qui sera le premier de la saison.
Ah, c'est une bonne chose. Alors déjà, les dates.
Les dates, donc du 26 au 28 janvier, puisque Georges, on est sur trois jours.
Oui, trois jours.
Alors, à quel endroit ?
Alors, au Parc des Expos d'Avignon. C'est une organisation qui est dirigée par Avignon Tourisme en collaboration, puisque nous avons signé une convention, avec le comité départemental de cyclisme. Voilà. Donc nous travaillons ensemble pour faire un projet, réaliser un projet qui n'a pas d'équivalent en France. Je le dis, c'est pas par prétention.
Et même en Europe, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'on se veut très généraliste au niveau du vélo, que ce soit compétition, loisirs et pédagogie. Donc il y a énormément de contenu lors de ces trois jours.
Alors, quels seront les principaux événements ? Donc on a parlé de la compétition indoor en BMX, mais il n'y a pas que ça.
Ah non, pas du tout. Bon alors, pour l'histoire du indoor en BMX, c'est vrai que je suis très touché par Sylvain qui devait partir aux États-Unis Et c'est bien une énorme qualité, puisque moi, j'ai presque envie de chialer, mais voilà, c'est un très grand champion et c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est dit, voilà, je ne peux pas ne pas être chez moi, à la maison, lors de la réalisation du premier indoor. Donc, il va reporter son déplacement aux États-Unis.
Rater le début du championnat US, qui est le championnat de référence au niveau mondial.
Pour être avec vous.
C'est voilà, quelqu'un qui est très attaché à ses racines.
Et très fidèle à son club.
Et très fidèle à son club de Cavaillon.
Il n'a eu qu'un club, c'est Cavaillon.
Voilà, et Cavaillon est connu dans le monde entier, dans le monde du BMX. Quand on est sur un départ de Coupe du Monde, on ne dit même pas France pour Sylvain André, on dit Cavaillon. Et ça, toujours, ça me marque sur les Coupes du Monde. Et c'est quand même fou.
Et l'UBV, l'Union BMX Vaucluse.
Et tout à fait.
Et donc, il y a une autre manifestation qui est une première hein, en français, qui existe ailleurs, hein, en Belgique et en Hollande, je crois. C'est un indoor de cyclocross. Voilà, alors ça, c'est une... petite pépite que nous a imaginé Frédéric Ploche, qui travaillera avec d'autres clubs, hein, donc, mais enfin qui sera le principal référent par rapport à ça. C'est un hall de 1500 m² où on va faire un parcours hein, avec un schéma assez particulier puisqu'ils vont partir à 4 et ils vont faire 2 tours avec un... je crois une compétition par équipe de 2.
Oui, il y aura un relais. On prend un départ qui est en fait plus un départ de BMX, de four-cross, à 4 avec une herse, et après on met des composants du cyclo-cross, c'est-à-dire en fait les traversées de sable, les sauts de planche, les montées, les descentes.
Donc c'est très atypique.
Et
très dynamique, voilà, avec beaucoup de dynamisme, et ça va vraiment intéresser, j'en suis sûr, le public qui sera là. Et cette épreuve aura lieu le 27, samedi. Ouais. Oui, parce que tout au long des 3 jours, nous avons un programme assez chargé.
Le vélo sous toutes ses formes. Ce qui m'a vraiment séduit dans ce projet, c'est que ça va commencer à partir de 2 ans, puisqu'on a la Dresienne qui va donc être pour les plus jeunes. On a ouvert l'inscription aujourd'hui pour la première manche du Kids Rider Bike Challenge. On est complet déjà. 50 enfants, donc de 2 à 5 ans. C'était complet en quelques heures. Et puis ensuite, il va en découler vraiment du vélo sous toutes ses formes. Course de vélo de route, randonnée VTT. On l'a dit, le BMX, du trial, VTT trial, vélo trial.
En démonstration, voilà. Il y aura aussi beaucoup d'ateliers pédagogiques. Voilà. Ça, c'est la journée à laquelle je tiens plus particulièrement, celle du vendredi. Donc, nous allons travailler en collaboration avec l'USEP. Nous allons avec des classes périscolaires. Donc, ça, c'est tout nouveau. Nous avons eu. On va les accueillir et on va les initier à plusieurs disciplines, faire de la pédagogie sur le...
Expliquer ce que sont les différentes formes de vélo. Souvent, l'enfant se dit un vélo, c'est un vélo de route, c'est un BMX. On va leur montrer qu'un vélo de cyclocross, c'est différent d'un vélo de route, même si ça y ressemble beaucoup. Un BMX, qu'est-ce que c'est? C'est des roues plus petites, tout ça.
Voilà, et d'autres choses assez importantes aussi, il y aura des conférences. Alors, je vais m'avancer, mais on a Christophe Basson qui risque de venir, qui est un référent dans le dopage technologique. Nous avons aussi, après des conférences sur le sport féminin, justement, avec Karine Chambonneau, une ancienne athlète de BMX, et un grand salon du vélo. Alors, pour l'instant, on a diffusé que les quelques premiers exposants, mais nous avons beaucoup de grandes marques qui seront présentes sur
ce salon. Vous avez à peu près combien d'exposants? Vous avez une idée ou pas?
Alors, nous, on a un hall de 1500 m² qui sera dédié aux exposants du... quelques mètres.
Toutes les marques référentes, que ce soit en vélo de route, VTT, seront présentes.
Toutes les disciplines de la fédération seront représentées.
Tous les vélos confondus. Et on aura même dans ce hall ou juste à côté, pour montrer également le haut niveau, l'équipe des deux champions du monde de VTT descente, le team donc Specialized Gravity, qui sera là avec son camion, un camion en fait comme un F1, pour expliquer que c'est aussi du haut niveau, puisqu'on a la télémétrie, le mécanicien en fait du champion du monde, et Vauclusien et Pernod, c'est déjà court. Ça, on ne le sait pas forcément, ce sont des métiers de l'ombre. Ils seront là avec leur camion pour montrer ce qu'on est vraiment dans la haute technologie. Et ça, d'habitude, on ne le voit pas, on n'y a pas accès. Et là, les gens pourront voir est en fait comme un F1 avec des amortisseurs, c'est Hollins. Et en fait, ils amènent la technologie et des sports mécaniques sur le vélo. Voilà.
Je vais vous rapidement vous dire aussi qu'on aura aussi le musée des vieux vélos.
Et à côté de ça,
des personnes qui vont nous expliquer.
Des vélos très anciens.
Les métiers du vélo, montage, démontage, et autre chose, j'y tiens beaucoup, une grande, très grande bourse au vélo. Ça c'est très important à le dire, que les gens pourront venir exposer leur vélo pour le vendre, et donc on attend.
Et pour en acheter aussi.
Et en acheter, oui, surtout pour en acheter.
Alors pour les dépôts de vélo, ça sera quand les dates?
Alors ça sera le jeudi, la veille pour ceux qui ne voudront pas payer l'entrée, qui pourront le déposer, donc on le réceptionnera, et puis après ceux qui voudront le vendredi paieront l'entrée, je pense que l'entrée aussi, les tarifs sont dérisoires, ça il faut le dire.
Et les horaires?
Les horaires, alors c'est de 9h du matin jusqu'à 18h le soir, pendant les 3 jours, avec, sauf le samedi, avec en plus un Open international déclaré UCI, puisque en BMX, où là on a une course UCI avec du très très haut niveau.
Il y a un site internet, je suppose.
Oui, tout à fait, donc avignon-velopasson.com.
On le mettra sur le podcast. En tout cas, ben, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on a rencontré des passionnés. Bonne chance pour cet événement qui est la première édition. Je te propose même éventuellement de faire un petit duplex téléphonique 2 semaines qui précèdent, de manière à présenter, à représenter cet événement. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, Lionel Beccari.
Merci.
Et Georges Garcia. Merci Alexandre, merci Bruno. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Merci beaucoup.